Me permettra-t-on ainsi de dire quelques mots sur ce livre de Pierre Loti ? Laissera-t-on la parole à une vraie Turque, une vraie musulmane, pour en prendre la défense ? Pour cela, je veux dès maintenant établir mon identité, afin de donner quelque portée à ce que je vais dire sur ce roman si controversé qui s'appelle « Les Désenchantés ». Je m'appelle Adil Djedzembourg, je suis fille de Nouri Bey. Rien n'est plus facile que de vérifier à Constantinople à quel point je suis authentique. En arrivant en France, j'ai repris le nom de mon grand-père, le comte de Châteauneuf, qui, du temps d'Abdulaziz, s'était fait turc et musulman sous le nom de Richard Bey. J'étais la zénib de ce livre qui a tant contribué à ouvrir les yeux du monde sur nos souffrances. Mielek était ma jeune sœur, et Jenan était notre chère cousine. Leïla, qui repose aujourd'hui dans le cimetière d'Eyoub, elle n'avait point d'atavisme français. Elle, et c'est peut-être pour cela qu'elle n'a jamais voulu quitter notre pays. Elle était purement circassienne. Or, aucun des livres de Loti n'a été plus battu en brèche que celui qu'il a consacré sur notre prière à toutes, à nous pauvres existences séquestrées. Nous sommes donc atteints du même coup, nous les musulmanes, dont il a tiré la défense, et c'est à nous d'élever la voix pour attester à nos lecteurs la vérité de ses dires. Les désenchantés ayant été un plaidoyer en notre faveur, à nous les épouses, les dames fantômes, comme ils nous appelaient, on aurait pu s'attendre à une riposte de la part de nos époux, nos seigneurs et maîtres. Et pas un d'eux jusqu'ici n'a pris la parole pour le contredire. Ont-ils senti que la conviction manquait à l'auteur ? Car, en effet, malgré sa bonne volonté à plaider notre franchissement, on sentait bien souvent l'opinion contraire à la nôtre. Ou bien, tout en le jugeant subversif, lui ont-ils pardonné en faveur de son attachement profond à notre Turquie et de son respect pour l'islam ? Ou n'est-ce pas plutôt dû à cette admirable impartialité dont la jeune Turquie a si souvent fait preuve, et ont-ils trouvé juste les revendications des dames fantômes, leurs compatriotes ? L'année dernière, un article paru dans un grand journal parisien fit quelque bruit. Un Turc, disait-on, un vrai Turc, attaquait Pierre Loti et s'inscrivait en faux contre ce témoignage. Renseignement pris, ce Turc n'était autre qu'un Arménien, un fonctionnaire ottoman en quête d'avancement, qui s'imaginait plaire au sultan d'alors. Et où la chose devient à haut comique, c'est quand cet orthodoxe grégorien, qui n'a jamais dû adresser la parole à une Turque, écrivait en parlant des musulmanes « nos femmes ne sont point ainsi, etc., etc. » Plus tard, dans la revue illustrée, vint le tour d'une Française qui se disait très au courant de la vie des harems. Renseignement pris, elle n'avait jamais été à Constantinople. Elle était mariée à un Égyptien et habitait le Caire. Cette dame avait simplement confondu la Turquie avec l'Égypte. Je la prierai donc, dans son intérêt d'ailleurs, de revoir sa géographie et de constater par elle-même que ces deux pays sont absolument distincts l'un de l'autre. La liberté relative de nos sœurs d'Égypte, mais c'est précisément ce que nous réclamons, nous les Turcs, ni plus ni moins. Vint ensuite un jeune romancier du nom de Géniaud, si je ne m'abuse, qui lui avait étudié les musulmans de Tunisie. « Ce n'est pas du tout cela, déclarait-il, et Loti a dû être mystifié. » Il a vu des Européennes déguisées. Ce romancier serait le pendant du monsieur qui dirait « Oh, ce n'est pas du tout ça, les femmes russes. Je les connais, moi, qui étudiais les femmes de Madrid et de Venise. » Non, Loti, mystifié chez nous par les Européens, pour qui connaît son expérience de la Turquie, mais c'est à hausser les épaules. Et cet été, enfin, un article plus sensationnel vit le jour dans la revue. Il était signé Sefer Bey et démolissait complètement l'œuvre de Loti. Alors ce fut grande joie chez quantité de petits journalistes toujours en quête de démolition. Quel abattage! Et cette fois encore, c'est un Turc, clamait-il, un grand seigneur turc qui le lui donne. J'eus la curiosité de lire ce factum, et je fis venir le numéro de la revue, mais je fus rassuré dès les premières lignes. Cela ne pouvait venir que d'un Pérotte. Outre que les passages dont l'auteur paraissait le plus blessé étaient précisément ceux qui visaient les Pérottes, il y avait surtout dans cet article un pastiche de l'esprit boulevardier qui me rappelait Péra dans toute son horreur. Et j'appris peu de temps après que ce personnage n'était ni bey, ni séfer, ni musulman, ni turc. Nous étions en présence d'un simple levantin enrichi qui avait pour nom de famille, ainsi que beaucoup d'Arméniens, au nom de baptême pris dans le calendrier chrétien, et accolé au titre d'Effendi, qui signifie chez nous « monsieur ». Quelque chose comme Grégoire Effendi, ou Georges Effendi, ou Victor Effendi. Encore un qui n'avait jamais mis les pieds dans un harem. De plus, il avouait n'être pas retourné en Turquie depuis 15 ans, et retarder ainsi d'une demi-génération, c'est beaucoup dans un pays en voie de se transformer si rapidement. Cette double constatation suffirait à réduire à néant l'article de Grégoire ou Victor Effendi. Tenons-nous-en à Victor, si vous voulez, afin de fixer les idées. Mais l'article se détruit déjà lui-même par tout ce qu'il contient de haine, pérotte et de mauvaise foi manifeste. Sans lui discuter plus longtemps, qu'il en vaut la peine, que l'on me permette de noter au hasard quelques amusantes contradictions qu'il renferme. Par exemple, page 81, l'auteur nous affirme que les musulmanes ne sont nullement cloîtrés. Cependant, page 78, il avait déclaré qu'en plein Stamboul, l'innocente promenade des trois amis au cimetière en compagnie d'André Léry était invraisemblable au point de prendre le caractère d'une moquerie envers le lecteur. Tiens, mais elles ne sont donc pas aussi libres que ça, les musulmanes. Et pourtant, nous l'avons faite, cette promenade, telle exactement que Loti l'a décrite. Il est vrai que ce jour-là, nous risquions notre liberté et notre vie. À cette même page 81, et comme père raison, je trouve cette phrase textuelle. La femme turque n'est nullement une révoltée. C'est elle, cependant, qui a fait la dernière révolution. Cette logique se passe de commentaires. Quant à ce journal de la mariée que M. Victor déclare aussi invraisemblable que son existence, c'est tout simplement le mien. Pierre Loti n'a pris que la peine de l'abréger et de le clarifier. Oh, vous avez raison, par exemple, M. Victor. C'est quand vous dites que nous étions déséquilibrés, nous et toutes nos compatriotes révoltés contre nous. Là, vraiment, vous faites preuve d'une certaine perspicacité. Pas excessive, toutefois, car le livre n'a pour but que de le déclarer. Déséquilibrement, très douloureux des jeunes musulmanes de notre génération, qui résultent d'une culture intense et d'une vie sans but et sans horizon. Comme tout Pérotte digne de ce nom, ce Victor Effendi n'est jamais sorti de la grande rue de Péra. Sans cela, il aurait connu, page 74, ces vieilles maisons seigneuriales qui s'étendent à Kassim, Pacha, au-dessus des cimetières. Je lui conseillerais volontiers de revoir la topographie de Constantinople. D'ailleurs, comme exactitude, tout le reste de l'article est à l'avenant. Mais c'est assez de nous occuper de ce faux séberveille. Mon but est bien plutôt de parler du roman vécu que Pierre Loti a écrit au jour le jour, presque malgré lui, sur nos sollicitations et celles de quelques-unes de nos amies dont je ne puis encore dévoiler les noms. Pas une page de ce livre qui n'ait été au préalable envoyé à Constantinople et passé au crible dans nos harems. C'est le journal exact de la vie de Loti et de la nôtre, de nos petites aventures en commun et de nos grandes bravades, qui réussissaient justement à force d'être audacieuses et inimaginables. Même ces lettres intercalées, ça et là, sont presque textuellement les nôtres. Si Pierre Loti a parfois retouché et condensé celle de Melek et de Zeyneb, il n'a jamais voulu toucher à celle de Djenan, qui écrivait mieux que nous toutes, en particulier celle qui commence ainsi. « Mon ami, vous qui aimez tant les roses, me paraît aussi joli que si Loti lui-même l'avait composée. Et cependant, il ne m'en voudra pas de constater qu'il n'y a pas changé une ligne. Lorsque nous étions enfants, nous avions, nous trois et d'autres petites amies qui vivaient avec nous, en plus de nos professeurs et de nos institutrices, notre cher père qui nous obligeait à beaucoup travailler la langue française. C'était un fervent de Loti et c'est son style qui nous désignait comme modèle pour nos devoirs. Lorsqu'il nous demandait la description d'un coucher de soleil, d'un orage ou d'une de nos excursions en Asie mineure. Et c'était Leïla, la Djenan du livre, qui excellait à faire ses pastiches, dont quelques-uns devaient plus tard surprendre et amuser Loti lui-même. Quand les quatre premières parties du livre ont été écrites, les désenchantés devaient avoir une fin toute différente que nous avions imaginée ensemble. Dans ce temps-là, du reste, Djenan, Melek et moi, Zeyneb, nous vions encore toutes les trois derrière les grilles du harem, et il fallait prendre beaucoup de précautions pour n'être pas trop aisément reconnus. C'est pourquoi il avait fait mourir Melek, qui heureusement se porte bien. C'est elle-même, du reste, qui, sous le nom de Neir el-Nissa, a raconté dans le Figaro notre fuite si dramatique et si retentissante, hélas. La mort de Melek est donc, dans ce roman, la seule chose qui ne soit pas arrivée. La mort d'une de nos jeunes amies a servi de modèle à ce chapitre, qui est aussi rigoureusement observé que les autres et l'un des plus émouvants du livre. Quant à la mort de Djenan, hélas, elle n'est que trop vraie, et je déplore les raisons qui me font toucher à un point aussi douloureux. Son rôle dans le roman est d'ailleurs assez pur pour que je ne voie aucun inconvénient à dire qu'elle l'a réellement joué dans la vie et joué jusqu'à la mort. Quand Pierre Loti a reçu sa lettre d'adieu, il avait déjà donné à la Revue des Deux Mondes les deux premières livraisons des Désenchantés. Alors la fin de son roman lui parut bien misérable, à côté de cette fin réelle qui venait à lui avec une si douloureuse beauté. Et puis il lui semblait que cette lettre demandait à un être divulgué et crié au monde entier. « Mes sœurs musulmanes, je vous les confie, parlez d'elles et parlez pour elles, » disait Leïla. Il nous a consultés cependant, car il n'osait pas le faire, et sans hésitation nous lui avons répondu qu'elle devait être publiée intégralement. Il l'a donc publiée telle qu'elle était, sans y changer une virgule. Il ne m'en voudra pas de dire que, composée par lui, elle eût pu être plus jolie. Plus tard, je l'ai revue, cette pauvre lettre, dans la mosquée de Rochefort, entourée de fleurs, et j'ai pleuré en lisant ces lignes écrites de la main de Leïla. J'ai songé à celles qui sont mortes, à toutes celles qui vivent et qui ont souffert pour cette même cause. Il n'y a plus de danger à dire cela, aujourd'hui que la libre révolution a rendu les femmes turques plus libres. Donc vous toutes, mes sœurs de Turquie et de France, qui avez connu et pleuré Djenan, sachez qu'elle a existé et qu'elle a vraiment été fauchée à l'avant-garde de notre révolution féministe, et qu'à la dernière heure, elle a vraiment songé à recommander ses compagnes aux romanciers, qui avait le pouvoir de rendre nos souffrances retentissantes. Hadidje Zenbourg, fille de Nouri Bey, petite-fille de Richard Bey, comte de Châteauneuf.